ce contraste de haillons et de parures, de misère et de superfluité, que l'on voit habituellement dans les temps ordinaires, avait alors complètement cessé. La misère et les haillons étaient presque partout, et l'on ne s'en distinguait que par un extérieur de la médiocrité la plus simple. On voyait les nobles vêtus d'un habit modeste, ou même usés et mal soignés. Les uns parce que les causes générales de l'infortune publique avaient atteint leur fortune jusqu'à les contraindre à ce changement, ou bien avaient porté le dernier coup à des fortunes déjà dérangées. Les autres, parce qu'ils craignaient d'aigrir par des dehors fastueux le désespoir de tout un peuple, ou qu'ils eussent rougi d'insulter à son malheur. Ces tyrans odieux et respectés par crainte, qui n'avaient jamais marché qu'avec une troupe de bravi à leur suite, allaient aujourd'hui presque seuls, la tête basse et avec une physionomie qui semblait offrir et demander la paix. D'autres qui, au temps de la prospérité, avaient eu des sentiments plus humains et de plus honnêtes habitudes, se montraient maintenant eux-mêmes abattus, consternés, et comme ne pouvant soutenir la vue d'une calamité qui excédait non seulement la possibilité de l'assistance, mais je dirais presque les forces de la commisération. Celui qui avait les moyens de faire quelque aumône était cependant obligé à un triste choix entre la faim et la faim, entre l'urgence et une urgence plus grande. Et une main compatissante ne s'était pas plutôt baissée sur la main d'un malheureux qu'une lutte entre les autres malheureux s'élevait tout alentour. Ceux à qui il restait un peu de force s'avançaient pour demander avec plus d'instance. Les plus exténués, les vieillards, les enfants, tendaient leurs mains décharnées. Les mères élevaient en l'air et présentaient de loin leurs nourrissons dont les cris exprimaient la souffrance, et qui, mal enveloppés dans des langes réduits en lambeaux, étaient, par langueur, repliés sur eux-mêmes dans les mains défaillantes qui appelaient sur eux la pitié. Ainsi se passèrent l'hiver et le printemps. Depuis quelque temps déjà, le tribunal de santé représentait au tribunal de provision qu'une aussi grande misère amassée et répandue partout dans la ville la menaçait d'une maladie contagieuse, et il proposait que les mendiants fussent recueillis dans divers hospices. Pendant qu'on examine ce projet, qu'on l'approuve, qu'on s'occupe du choix des locaux et des moyens d'exécution, les cadavres encombrent les rues chaque jour davantage, et toutes les autres misères augmentent dans la même mesure. Dans le tribunal de provision, on propose, comme un expédient plus prompt et plus facile, de réunir tous les mendiants, valides ou malades, dans un seul lieu, dans le lazaret, où ils seraient nourris et soignés aux frais du trésor public. Et c'est le parti auquel on s'arrête, contre l'avis du tribunal de santé, lequel objectait qu'une aussi grande réunion de personnes ne pourrait qu'augmenter le danger que l'on voulait prévenir. Le lazaret de Milan, pour prévoir le cas où cette histoire tomberait dans les mains de quelqu'un qui ne le connaîtrait ni pour l'avoir vu, ni par la description qui lui en aurait été faite, est un enclos à quatre côtés presque égaux, situé hors de la ville, à gauche de la porte dite orientale, éloigné du rempart de tout l'espace que comprennent le fossé, un chemin de circonvallation et un autre petit fossé creusé tout autour de l'enclos même. Les deux plus grands côtés ont à peu près 500 pas de longueur, les deux autres peut-être 15 de moins. Tous les quatre, dans la partie extérieure, sont divisés en petites chambres de plain-pied avec le sol et sans autre étage au-dessus. En dedans, règne sur trois de ses côtés un portique continu, voûté et soutenu par de petites colonnes assez grêles. Les chambres étaient au nombre de 288, ou peut-être un peu moins. De nos jours, une grande ouverture pratiquée au milieu, et une autre plus petite dans un coin de la façade, du côté qui longe la grande route, ont pris je ne sais combien de ces chambres. Dans le temps auquel se rapporte notre histoire, il n'y avait que deux entrées, l'une au milieu, du côté qui fait face au mur de la ville, l'autre vis-à-vis, dans la partie opposée. Au centre de l'espace intérieur s'élevait une petite église, de forme octogone, qui subsiste encore. La destination primitive de tout l'édifice, commencée en l'année 1489, avec les fonds provenant d'un legs particulier, et continuée ensuite au moyen des subventions de l'administration publique, ainsi que par les ressources que fournirent d'autres legs et donations, fut, ainsi que son nom l'indique, d'y recueillir, lorsque le cas s'en présentait, les personnes atteintes de la peste. Maladie qui, longtemps avant cette époque, se montrait, comme elle s'est montrée longtemps encore après, 2, 4, 6, 8 fois par siècle, tantôt sur tel point de l'Europe, tantôt sur tel autre, en embrassant quelquefois une grande partie, ou même la parcourant tout entière et dans tous les sens. Dans le moment dont nous parlons, le lazaret ne servait que de lieu de dépôt pour les marchandises sujettes à quarantaine. Pour le déblayer maintenant, on ne s'arrêta pas à la rigueur des lois sanitaires. On fit à la hâte les purges et les épreuves prescrites, après quoi toutes les marchandises furent remises à la fois à ceux à qui elles appartenaient. On fit répandre de la paille dans toutes les chambres. On se pourvut de vivres de telle qualité et en telle quantité que l'on put. Et par un édit public, on invita tous les mendiants à aller occuper l'asile qui venait d'être préparé pour eux. Beaucoup s'y rendirent volontairement. Tous ceux qui étaient malades et couchés dans les rues et les places publiques y furent transportés. En peu de jours, il y en eut, en comptant les uns et les autres, plus de 3 000. Mais il en resta dehors un bien plus grand nombre. Soit que chacun d'eux attendit de voir partir les autres pour exploiter ensuite avec moins de concurrents les aumônes de la ville, soit qu'ils fussent retenus par cette répugnance naturelle qui s'attache à l'idée de la réclusion, ou par cette défiance avec laquelle les pauvres accueillent tout ce qui leur est proposé par la classe qui possède les richesses et le pouvoir. Défiance toujours proportionnée à l'ignorance de celui qui l'éprouve comme de celui qui l'inspire, au nombre des pauvres et aux défectuosités des lois. Soit qu'ils sussent que c'était en réalité le bienfait qui leur était offert. Soit toutes ces raisons ensemble, ou tout autre, le fait est que la plupart, ne tenant nul compte de l'invitation, continuaient à se traîner à grand-peine par les rues. On jugea convenable alors de passer de l'invitation à la contrainte. On fit faire des rondes par des sbires qui avaient ordre de chasser tous les mendiants vers le lazaret, et d'y conduire liés ceux qui feraient résistance, assignant à ses agents une prime de 10 sous pour chaque mendiant qu'ils amèneraient. Tant il est vrai que, même dans les temps de la plus grande gêne, l'argent du public se trouve toujours pour l'employer à rebours du sens commun. Et bien que, conformément aux conjectures, ou même aux calculs positifs du tribunal de provision, un certain nombre de ces malheureux quittaient la ville pour aller vivre ou mourir ailleurs, mais du moins en liberté, la chasse cependant fut si bien faite qu'en peu de temps, la masse des individus reçus au lazaret, tant en hôtes volontaires qu'en prisonniers, ne fut guère au-dessous de 10 000. On doit supposer que les femmes et les enfants furent placés dans des quartiers à part, quoique les mémoires du temps n'en disent rien. Les règlements et les mesures de bon ordre n'auront pas manqué sans doute, mais on se figure sans peine quel ordre pouvait être établi et maintenu, dans ce temps-là surtout et dans de pareilles circonstances, parmi un si nombreux rassemblement de gens si différents entre eux, où les reclus volontaires se trouvaient mêlés à ceux qui l'étaient par force. Les hommes pour qui la mendicité était une nécessité, un sujet de honte et de douleur, avec ceux dont elle était le métier et l'habitude. Tous ceux qui avaient passé leur vie dans l'honorable activité des champs et des manufactures, avec tant d'autres, dont l'éducation s'était faite au coin des rues, dans les cabarets, dans les palais de quelques hauts brigands, pour apprendre en ces divers lieux la fainéantise, la débauche, l'art de tromper et de tourmenter ses semblables. Quant à la manière dont tous étaient logés et nourris, on pourrait, par de tristes conjectures, s'en faire une idée, lors même que nous n'aurions pas à cet égard des notions positives. Mais nous en avons. Ils couchaient entassés par 20 et par 30 dans chacune des petites chambres dont nous avons parlé, ou sous les portiques, sans autre lit qu'un peu de paille corrompue et fétide, ou le carreau. car il avait bien été ordonné que la paille fût fraîche, en quantité suffisante et souvent renouvelée. Mais dans le fait, on l'avait fournie mauvaise, en petite quantité, et on ne la renouvelait point. De même, l'ordre était que le pain fût de bonne qualité. Et quel administrateur, en effet, a jamais dit que l'on doive fabriquer et mettre en consommation de mauvais aliments? Mais ce qu'on aurait pu obtenir dans des circonstances ordinaires, même pour une fourniture moins considérable, comment l'obtenir dans la circonstance actuelle et pour tant de monde? On dit alors, selon ce que rapportaient les mémoires, que le pain du lazaret était mêlé de substances pesantes et nullement nutritives. Et il n'est que trop à croire que ce ne fut pas là une des plaintes sans fondement qui sortent quelquefois de la bouche du peuple. L'eau même manquait, c'est-à-dire l'eau vive et salubre. On n'avait pour s'abreuver que celle du bief longeant les murs de l'enclos, et qui, habituellement basse, lente, bourbeuse même en quelques endroits, était de plus devenue ce qu'elle pouvait être avec un tel voisinage et l'usage qu'en faisait une multitude composée comme celle qui habitait ce lieu. À toutes ces causes de mortalité, d'autant plus actives qu'elles s'exerçaient sur des corps malades ou près de l'être, vint se joindre une influence atmosphérique, une influence très pernicieuse. Des pluies obstinées, suivies d'une sécheresse plus obstinée encore et d'une précoce et très forte chaleur. Qu'on se figure maintenant ce qu'ajoutaient aux mots les sentiments des maux eux-mêmes, l'ennui et l'impatience de la captivité, le souvenir des anciennes habitudes, les regrets sur des êtres chéris que l'on avait perdus, l'inquiétude sur ceux dont on était séparé, la contrariété et le dégoût réciproque envers toutes ces personnes condamnées à vivre ensemble, bien d'autres affections encore, disposant à l'abattement ou à la colère, apportées ou nées dans ce lieu. Puis, l'appréhension et le spectacle continuel de la mort, rendues fréquentes par tant de causes, est devenue elle-même une nouvelle et puissante cause de mort. Qu'on se figure tout cela, disons-nous, et l'on ne s'étonnera nullement que la mortalité se soit accrue, et qu'elle ait régné dans cette enceinte jusqu'au point de prendre l'apparence et de recevoir de plusieurs le nom de peste. Et ici, le champ s'ouvre aux questions et aux controverses. Doit-on croire que la maladie était simplement épidémique et que son activité a été seulement augmentée par la réunion et l'accroissement successif de toutes ces causes si capables de produire un tel effet? Ou bien, et comme il paraît que cela arrive dans des disettes moins graves même et moins prolongées que celles-ci, existe-t-il une sorte de contagion qui se trouverait dans des corps affectés et prédisposés par la souffrance, par la mauvaise qualité des aliments, par les intempéries de l'air, par la saleté, par les peines et l'abattement de l'âme, toutes les conditions nécessaires à sa naissance, son développement et sa propagation? S'il est permis à un ignorant de hasarder ses paroles après l'hypothèse avancée par quelques physiciens et reproduite dernièrement, avec beaucoup de raisons à l'appui et grandes réserves, par un esprit non moins soigneux dans ses observations qu'ingénieux dans les inductions qu'il en tire. Faut-il supposer ensuite que la contagion ait d'abord éclaté dans le lazaret même, comme il paraît, d'après une obscure et inexacte relation que les médecins de la santé le pensèrent? Ou ne peut-on pas regarder comme plus vraisemblable, surtout si l'on considère combien la souffrance était déjà ancienne et générale, et la mortalité fréquente, que cette contagion était née et couvée sourdement, dès avant la réclusion au lazaret, et qu'apportée dans cette foule permanente, elle s'y est propagée avec une nouvelle et terrible rapidité? Quelle que soit, de ces conjectures, la véritable, le nombre des morts dans le lazaret dépassa bientôt par jour la centaine. Pendant que là, parmi ceux qui existaient encore, ce n'était que langueur, angoisse, plaintes et frémissements, on était, au tribunal de provision, dans la honte, le trouble et l'incertitude. On tint conseil, on prit l'avis de la santé, on n'imagina rien de mieux que de défaire ce que l'on avait fait avec tant d'appareils, de dépenses et de vexations. On ouvrit les portes du lazaret, on congédia tous les pauvres encore valides qui s'y trouvaient, et qui se hâtèrent d'en sortir avec une joie furibonde. La ville retentit de nouveau de ces cris plaintifs dont elle avait été précédemment attristée, mais qui, cette fois, étaient plus faibles et moins continus. Elle revit cette foule misérable, mais elle la revit moins nombreuse et plus digne encore de pitié, dit Ripamonti, si l'on songeait aux causes qui l'avaient ainsi réduite. Les malades furent transportés à Santa Maria della Stella, qui était alors un hôpital pour les pauvres, et la plupart y périrent. Mais les blés, cependant, commençaient à blondir. Les mendiants venus de la campagne s'enfuirent, chacun de son côté, vers cette moisson si désirée. Le bon Frédéric leur fit ses adieux par un dernier effort et un nouveau moyen de charité que lui suggéra sa prévoyance. Il fit donner à chaque paysan qui se présentait à l'archevêché un giulio, pièce de monnaie, et une faucille de moissonneur. La moisson, enfin, vint faire cesser la disette. La mortalité, épidémique ou contagieuse, diminuant de jour en jour, se prolongea cependant jusque vers le milieu de l'automne. Elle touchait à son terme lorsqu'un nouveau fléau parut. Plusieurs événements majeurs, et de ceux auxquels on donne plus spécialement le titre de faits historiques, s'étaient passés pendant qu'avaient eu lieu ceux dont nous venons de présenter le tableau. Le cardinal de Richelieu, après avoir pris La Rochelle, comme nous l'avons dit, et avoir bâclé le mieux possible un traité de paix avec le roi d'Angleterre, avait proposé, et par sa parole toute puissante, fait adopter, dans le conseil du roi de France, la résolution de prêter un secours efficace au duc de Nevers. Et en même temps, il avait décidé le roi lui-même à commander en personne l'expédition. Pendant qu'on en faisait les préparatifs, le comte de Nassau, commissaire impérial, enjoignait, à Mantoue, au nouveau duc de remettre dans les mains de Ferdinand les états en litige, à défaut de quoi ce prince enverrait une armée pour les occuper. Le duc, qui, dans des circonstances où moins d'espoir lui était permis, avait su éviter de subir une condition si dure et si peu propre à lui inspirer confiance, faisait d'autant plus en sorte de s'y soustraire, maintenant que le secours de la France s'offrait à lui comme prochain. Toutefois, se gardant d'énoncer un refus formel, il cherchait à gagner du temps par des réponses évasives et par des propositions d'une sorte de soumission qui, donnant plus aux apparences, lui était dans le fait moins onéreuse. Le commissaire était reparti, lui protestant qu'on en viendrait aux moyens de rigueur. Au mois de mars, le cardinal de Richelieu, selon ce qui avait été arrêté, était descendu en Italie, avec le roi, à la tête d'une armée. Il avait demandé le passage au duc de Savoie. On avait traité sans rien conclure. Après une affaire où les Français avaient eu l'avantage, on avait traité de nouveau et conclu cette fois un accord dans lequel, entre autres stipulations, il était dit que Don Gonzalo lèverait le siège de Casal, le duc s'engageant, si celui-ci refusait, à se joindre aux Français pour envahir le duché de Milan. Don Gonzalo, jugeant qu'il s'en tirait à bon marché, avait levé le siège, et un corps de Français était aussitôt entré dans Casal pour renforcer la garnison. Ce fut à cette occasion que l'Aquilini adressa au roi Louis son fameux sonnet « Sudate, o fuochi, a preparar metalli »« Suez, ô feu, préparez les métaux » et un autre où il l'exhortait à marcher sans délai à la délivrance de la Terre Sainte. Mais il est de la destinée des poètes qu'on ne suive jamais leur avis. Et si vous trouvez dans l'histoire quelques faits conformes à ce qu'ils ont pu conseiller, dites hardiment que c'était choses antérieurement résolues. Le cardinal de Richelieu avait, au contraire, déterminé le retour de son monde en France pour des affaires qui lui paraissaient plus pressées. Girolamo Soranzo, envoyé des Vénitiens, eut beau présenter motif sur motif pour combattre cette résolution. Le roi et le cardinal, ne s'arrêtant pas plus à sa prose qu'au vers de l'Aquilini, s'en retournèrent avec le gros de l'armée, laissant seulement 6 000 hommes à Suse pour garder le passage et assurer l'observation du traité. pendant que cette armée s'éloignait d'un côté, celle de Ferdinand s'approchait de l'autre. Elle avait envahi le pays des Grisons et la Valteline. Elle se disposait à descendre dans le Milanais. Outre les dommages de toutes sortes qu'un tel passage pouvait faire craindre, l'avis positif était parvenu au tribunal de santé que cette armée recélait un germe de peste, contagion dont il régnait toujours quelques symptômes parmi les troupes allemandes. Ainsi que l'observe Warki, en parlant de celle qu'elles avaient, un siècle auparavant, apportée à Florence. Alexandre Taddino, l'un des conservateurs de la santé, ils étaient au nombre de 6, sans compter le président, 4 magistrats et 2 médecins, fut chargé par le tribunal, comme il le raconte lui-même dans sa relation déjà citée, de représenter au gouverneur l'épouvantable danger qui menaçait le pays si cette armée y passait pour aller faire le siège de Mantoue, comme le bruit en courait. De tout ce qu'a fait Don Gonzalo dans le cours de sa vie, on peut inférer qu'il souhaitait ardemment de se préparer une place dans l'histoire, et elle n'a pu en effet éviter de s'occuper de lui. Mais comme cela arrive souvent, elle n'a pas connu, ou elle a négligé de consigner dans ses fastes celui des actes de cet homme qui est le plus digne de mémoire, la réponse qu'il fit à Taddino dans cette circonstance. Il répondit qu'il ne savait qu'y faire, que les raisons d'intérêt et les considérations de réputation personnelle pour lesquelles cette armée s'était mise en marche devaient l'emporter sur le danger dont on parlait. Que du reste, on n'avait qu'à tâcher de se garantir le mieux possible et puis espérer en la Providence. Pour se garantir le mieux possible, les 2 médecins de la santé, Taddino, que nous venons de nommer, et Senatore Settala, fils du célèbre Lodovico, proposèrent à ce tribunal qu'il fût défendu sous des peines très sévères d'acheter quelque objet que ce fût des soldats qui devaient incessamment passer. Mais il ne fut pas possible de faire comprendre la nécessité d'un tel ordre au président. « Homme, dit Taddino, d'une grande bonté, qui ne pouvait croire que des rapports avec ces gens et le maniement de leurs effets dussent occasionner la mort de tant de milliers de personnes. » Nous citons ce trait comme l'un de ceux de l'époque qui sont à remarquer, car bien certainement, depuis qu'il existe des tribunaux de santé, on n'a vu que cette fois le président d'un tel corps faire un raisonnement semblable, si l'on peut l'appeler raisonnement. Quant à Don Gonzalo, peu après cette réponse, il quitta Milan, et son départ ne fut pas pour lui moins désagréable que la cause qui l'y obligeait. Il était rappelé, pour le mauvais succès de la guerre dont il avait dirigé les opérations après en avoir été le moteur, et le peuple l'accusait de la famine dont la contrée avait été sous son gouvernement affligée. Pour ce qui regarde la peste, où l'on ignorait ce qu'il avait fait, ou sûrement, comme nous le verrons plus tard, personne ne s'en inquiétait, si ce n'est le tribunal de santé et surtout les 2 médecins. Il partit donc, et voici de quelle manière. Comme il venait de sortir du palais du gouvernement en voiture de voyage, entouré d'une escorte de hallebardiers, précédé de 2 trompettes à cheval et suivi d'autres voitures où se trouvaient les nobles qui avaient cru devoir l'accompagner dans cette circonstance, il fut accueilli à grand bruit de sifflets par des enfants qui s'étaient rassemblés sur la place du Duomo et qui après se mirent en troupe à le suivre. Arrivé dans la rue qui conduit à la porte du Tessia, par où l'on devait sortir de la ville, le cortège se trouva au milieu d'une foule de gens, dont les uns étaient là, à attendre, et les autres, à courir, d'autant plus que les trompettes, hommes d'étiquette avant tout, ne cessèrent de sonner de leur instrument, depuis le palais jusqu'à la porte. Et dans le procès qui se fit ensuite sur ce tumulte, l'un de ceux-ci, à qui l'on reprochait d'avoir été cause, par son trompettage continuel, que le tumulte s'accrut, répondit. Mon cher monsieur, c'est notre profession, et si son excellence n'avait pas pour agréable que nous sonnassions, elle n'avait qu'à nous faire dire de nous taire. Mais Don Gonzalo, soit qu'il répugnât à donner cet ordre qui eût pu marquer de la crainte, soit qu'il appréhendât de rendre ainsi cette multitude plus hardie, ou soit même encore qu'il fût en effet un peu troublé, laissait faire et n'ordonnait rien. la multitude, que les gardes avaient inutilement tenté de repousser, précédait, entourait, suivait les voitures en criant « C'est la disette qui s'en va, il s'en va, le sang des pauvres !» et autres choses encore moins gracieuses. Quand ils furent près de la porte, ils se mirent à lancer des pierres, des briques, des trognons de choux, des débris de toutes sortes, toute la mitraille en un mot, qui s'emploie d'ordinaire en de pareilles expéditions. Partie d'entre eux coururent sur les remparts, d'où ils firent une dernière décharge sur les voitures qui sortaient. Aussitôt après, ils se séparèrent. Don Gonzalo fut remplacé par le marquis Ambroise Spinola, dont le nom avait déjà acquis, dans les guerres de Flandre, cette célébrité militaire qu'il conserve encore aujourd'hui. Cependant, l'armée allemande, sous le commandement en chef du comte Rambaldo de Collatto, autre condottiere italien, dont la réputation, sans être aussi grande, était cependant assez belle, avait reçu l'ordre définitif de marcher sur Mantoue, et au mois de septembre, elle entra dans le duché de Milan. La milice, à cette époque, était encore composée en grande partie d'aventuriers enrôlés par des condottieri de profession qui formaient cette troupe sur la commission qu'ils en recevaient de tel ou tel prince, quelquefois même pour leur propre compte et pour se vendre ensuite, eux et leurs troupes tout ensemble. C'était moins par la solde que les hommes étaient attirés à ce métier que par l'espérance du pillage et tous les attraits de la licence. Une discipline fixe et générale n'existait point. Elle aurait eu peine à s'accorder avec l'autorité en partie indépendante des divers condottieri. Ceux-ci, d'ailleurs, en fait de discipline, n'étaient pas fort recherchés. Et, l'eussent-ils voulu, on ne voit guère comment ils auraient pu parvenir à l'établir et à la conserver. Car des soldats de cette espèce se seraient révoltés contre un condottiere novateur, qui se serait mis en tête d'abolir le pillage, ou, pour le moins, il l'aurait laissé seul à la garde de ses drapeaux. De plus, comme les princes, en prenant, pour ainsi dire, ces bandes à louage, songeaient plutôt à se procurer des forces nombreuses pour assurer le succès de leurs entreprises qu'à les mettre en rapport avec leurs moyens de les payer, lesquels étaient pour l'ordinaire fort restreints, il s'ensuivait que la solde n'arrivait que tardivement, petit à petit, par à-compte, et les dépouilles des pays sur lesquels venait s'abattre le fléau figuraient pour cette solde comme un supplément tacitement convenu. Cette sentence de Wallenstein est presque aussi fameuse que son nom. Il est plus aisé, disait-il, de tenir sur pied une armée de 100 000 hommes qu'une de 12 000. Celle dont nous parlons était en partie composée des mêmes troupes qui, sous le commandement de ce chef, avaient désolé l'Allemagne dans cette guerre célèbre entre toutes qui prit son nom des 30 années de sa durée. On en était alors à la 11e. Le régiment de Wallenstein lui-même s'y trouvait sous la conduite d'un de ses lieutenants. La plupart des autres condottieri avaient commandé sous lui, et l'on y en comptait plusieurs de ceux qui, 4 ans après, devaient aider à le conduire à la triste fin qui lui était réservée. L'armée était de 28 000 fantassins et 7 000 chevaux. En descendant de la Valteline pour se porter sur le Mantouan, elle devait suivre toute la ligne que l'Adda parcourt, comme lac sur 2 branches, et ensuite, de nouveau comme fleuve, jusqu'à son embouchure dans le Pô, après quoi elle avait encore à côtoyer assez longtemps ce dernier fleuve. En tout, 8 journées de marche dans le duché de Milan. Une grande partie des habitants se réfugiaient sur les montagnes, y emportant ce qu'ils avaient de mieux et poussant devant eux leurs bétiaux. D'autres restaient, ou pour ne pas abandonner quelques malades de leur famille, ou pour préserver leur maison de l'incendie, ou pour avoir l'œil sur des objets précieux qu'ils avaient cachés, enfouis sous terre. D'autres aussi, parce qu'ils n'avaient rien à perdre, ou même qu'ils comptaient sur quelque chose à gagner. Quand la troupe qui était la première en marche arrivait au lieu de son étape, son premier soin était de se répandre dans toutes les habitations, et de l'endroit et des environs, et de les mettre tout simplement au pillage. Ce qui pouvait être consommé ou emporté disparaissait. Le reste étaient détruits ou saccagés. Les meubles devenaient du bois pour le feu, les maisons des écuries, sans parler des violences, des sévices, des outrages de toutes sortes sur les malheureux habitants. Tous les moyens, toutes les ruses que ceux-ci avaient pu mettre en œuvre pour sauver quelques effets étaient le plus souvent inutiles ou, quelquefois, ne servaient qu'à causer plus de mal. Les soldats, bien plus au fait que ces pauvres gens, des stratagèmes de cet autre genre de guerre, fouillaient dans tous les recoins du logis, démolissaient, abattaient les planchers et les murailles. Ils reconnaissaient aisément dans les jardins la terre fraîchement remuée. Ils allaient jusque sur les montagnes s'emparer des bestiaux. Ils pénétraient, guidés par quelques vauriens de l'endroit, dans les grottes ignorées, pour y chercher l'homme un peu riche qui s'y était blotti. Ils le traînaient à sa demeure, et par une torture de menaces et de coups, le forçaient à indiquer le lieu où était caché son trésor. Ils partaient enfin, ils étaient partis. On entendait de loin mourir le son des tambours ou des trompettes. On avait quelques heures d'un repos plein d'épouvante. Et puis ce maudit son de tambour, ce maudit son de trompette recommençait, annonçant une nouvelle troupe. Ceux-ci, ne trouvant plus de butin à faire, n'en détruisaient qu'avec plus de fureur le peu qui pouvait rester encore. Ils brûlaient les tonneaux vidés par les premiers, les portes des chambres où ceux-ci n'avaient laissé que les quatre murs. Ils mettaient le feu aux maisons mêmes, maltraitaient les personnes, cela va sans dire, avec d'autant plus de rage. Et la chose allait ainsi de mal en pis pendant 20 jours, car c'était en 20 troupes séparées que l'armée effectuait sa marche. Colico fut le premier endroit du duché qu'envahirent ces démons. Ils se jetèrent ensuite sur Bellano. De là, ils entrèrent et se répandirent dans la Valsassina, d'où ils débouchèrent dans le territoire de Lecco.